et jeudi prochain à partir de 13h.
Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
De retour, donc, pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. C'est la Libre Antenne. Nous sommes vendredi. Vous commentez tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine, tous les événements. Aucun sujet n'est tabou. Donc, rejoignez-nous ici à Paris, 33 9 693 693 70. Et vous pouvez également poster vos réactions sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Je vous le disais en début d'émission tout à l'heure, vous avez été plusieurs à nous appeler pour commenter cette crise qui se coup en ce moment la Cour constitutionnelle en Guinée. Je vous rappelle que les juges ont essayé de destituer le président de la Cour. Du coup, de nombreuses voix dénoncent aujourd'hui un coup de force constitutionnel, une violation des lois constitutionnelles. Abdel, bonjour.
Oui, bonjour Anne.
Vous êtes à Conakry et vous étiez avant-hier justement devant la Cour constitutionnelle pour manifester.
Absolument. Absolument, nous avons répondu à l'appel du ballet citoyen, de la société civile. Nous avons répondu, nous avons fait un sitting devant cette cour constitutionnelle pour dénoncer à ces putschistes, à ces juges qui veulent faire un coup d'état constitutionnel contre les institutions de la République. Donc, ils accusent le président de la Cour constitutionnelle, qui est Khalifa Sall, de détournement de fonds, de détournement de l'argent qui appartient à la Cour constitutionnelle. Mais nous nous leur avons dit que c'est pas à eux de dévincer Khalifa Sall. La Guinée a une Cour des comptes. Nous avons un président de la Cour des comptes. Nous avons des institutions, des régies financières qui sont habilitées. Nous avons une justice qui est habilitée à traquer tout cadre fauteur de troubles ou tout cadre qui essaye de détourner les biens de l'État. Donc, la population guinéenne a répondu à cet appel. Donc, pour montrer à la communauté nationale et à l'opinion nationale que ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, c'est vraiment, c'est pas du tout normal. C'est irresponsable.
Alors, ce n'est pas normal, dites-vous, et de nombreuses voix au sein de la société civile comme dans la classe politique dénoncent cette volonté effectivement de destituer le président de la Cour constitutionnelle. Les constitutionnalistes, eux, rappellent qu'il y a deux façons de destituer un président de la Cour. D'abord, s'il a violé son serment, le serment qu'il a prêté au moment d'entrer en fonction. Visiblement, ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Et s'il est condamné définitivement en matière pénale, et pour l'instant, il n'y a pas de procédure contre lui. Donc, si on respecte la loi, on ne peut pas démettre, on ne peut pas destituer le président de la Cour constitutionnelle. Selon vous, Abdel, y a-t-il des arrière-pensées? Pourquoi vouloir à tout prix s'en prendre au président de la Cour constitutionnelle? Il y a des arrière-pensées? Il y a un plan caché?
Absolument, Juan. Derrière cela, il y a une manipulation politique. Pour donner un troisième mandat au président de la République. Parce que ces juges que vous faites allusion aujourd'hui, ils essayent de rédiger une nouvelle constitution pour donner un troisième mandat au président de la République. Donc c'est ce que nous avons compris, c'est ce que la population a compris, c'est ce que les citoyens lambda ont compris, c'est ce que la société civile et cette plateforme de ballet citoyen ont compris pour manifester devant la Cour constitutionnelle.
D'autant que le président de la Cour constitutionnelle, faut le rappeler, c'est important, disait en décembre 2015 au moment de la prestation de serment, l'investiture d'Alpha Condé pour son second mandat, il s'est adressé au président en lui disant « Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisitionnistes, car si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance, il demeure cependant légitimement vigilant. » En substance, ça veut dire quoi? Ne soyez pas tentés par une révision constitutionnelle pour vous permettre de briguer un troisième mandat. Alors ça, c'est le point de vue, évidemment, d'une partie de la population qui suit de très près cette affaire. Barry, bonjour.
Bonjour, monsieur Juan Gomez, et bonjour à vos millions d'auditeurs à travers le monde.
Et vous faites partie de ces nombreux auditeurs, Barry. Est-ce que vous avez la même perception, la même analyse qu'Abdel?
Non, je tombe de nu quand j'entends mon confrère parler d'un troisième mandat. Parce qu'il faut être vraiment conséquent. Nous allons débattre cette question de troisième mandat et ne pas se focaliser sur les questions essentielles concernant la vie du développement de notre pays. On ne peut pas parler d'un troisième mandat sans parler d'une révision constitutionnelle. Jusqu'à date, nous n'avons pas un projet ou une proposition de révision de la Constitution, parce qu'on peut en aucun cas faire un troisième mandat sans réviser la Constitution. Par contre, ce qu'il faut dire dans cette situation, il y a toujours un précédent qui entraîne d'autres situations. Parce qu'on est habitué en Guinée à chaque fois de démettre un président des institutions républicaines, notamment les différents présidents de la CENI. À chaque élection, on est obligé d'entamer une procédure à l'interne pour destituer le président. Mmh. Et le tout dernier président qui a été destitué, M. Bakary Fofana, avait fait un recours devant la Cour constitutionnelle. C'est M. Kélépa même qui a validé cette destitution de M. Bakary Fofana.
Barry, vous défendez, et c'est votre droit évidemment, la majorité présidentielle, en tout cas militants, partisans, peu importe, mais vous défendez cette vision, mais certains voient forcément un lien de cause à effet. On entend de plus en plus parler de l'éventualité d'un troisième mandat pour Alpha Condé, et bon, on limoge le président de la Cour constitutionnelle qui avait alerté il y a 3 ans le président Condé de ne pas être tenté par un troisième mandat. Donc vous pensez bien que les gens, bon, bah, font le rapprochement.
Monsieur Juan Gomez, les gens ne croient pas à cette hypothèse parce que pour preuve, ils ont fait un appel. Tous les partis politiques que vous connaissez de l'opposition influente dans le pays ont lancé un appel de sitting devant la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas eu plus de 100 personnes qui ont répondu.
Oui.
Cela prouve à suffisance que le peuple est conscient que le président, pour le moment, n'est pas dans ce projet. Mmh. Et connaissant très bien le président Alpha Condé, qui a mené une lutte démocratique pendant plus de 40 ans, ne va pas s'engager dans cette lancée.
Ou peut-être ça signifie que le sujet intéresse, mais ne mobilise pas suffisamment pour effectivement qu'il y ait des centaines, des milliers de personnes devant la Cour constitutionnelle. Merci à tous les deux, Abdel et Barry. J'espère que vous aurez la possibilité de vous libérer mercredi et jeudi prochain à partir de 13h et nous rejoindre au Centre culturel franco-guinéen pour l'enregistrement de ces émissions que nous allons faire en public. Vous avez certainement entendu que la campagne électorale démarrait officiellement demain au Cameroun. C'est demain donc. 5 candidats ont déjà alerté sur le fait que les médias d'État ont tendance à privilégier le président sortant Paul Biya, qui est candidat à un 7e mandat. Avec nous au téléphone, Franck, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
En entendant le sujet sur l'antenne de RFI, vous nous avez appelé pour participer à cette libre antenne et vous aviez envie de nous dire, effectivement, c'est indéniable que les médias publics au Cameroun soutiennent le président sortant.
C'est une tradition, vous voyez, monsieur Juan, parce que le directeur de l'Office de radio et télévision du Cameroun vous dit que la CRTV est le tam-tam de monsieur Paul Biya. Il ne vous dit pas le tam-tam de monsieur le président de la République, mais de Paul Biya. Et il vous parlait dans le contexte africain où on sait ce que veut dire un tam-tam. Et donc, oui, il utilise ce tam-tam-là pour communiquer, uniquement lui. C'est de tradition, c'est de notoriété publique, c'est connu.
Oui, enfin, quand vous dites uniquement le président de la République, il y a quand même des équipes de la radio et télévision camerounaise, la radio et télévision publique, qui suivent les opposants.
Alors, je vais vous donner un petit exemple. Je soutiens un candidat. Ce candidat-là, le journaliste qui présente une émission de journal, annonce un élément pour parler des activités de ce candidat-là. Mais ce qu'on voit devant le petit écran, c'est plutôt la publicité du président candidat ou de son épouse en train de donner des dons à certains endroits. Et quand on sait qu'au Cameroun, il n'y a pas un dispositif qui permet aux sourds et malentendants de suivre la télévision, vous pensez que cela comprendront même que on a annoncé l'élément de ce candidat, non? Je vous dis,
oui.
C'est connu, c'est de notoriété, on sait que la CRTV et Cameroun Tribune, qui sont les médias d'État...
En tout cas, visiblement, chacun des 8 candidats d'opposition a droit, a droit effectivement à une équipe. Alors chacun une équipe de télévision, le président, lui, en a 5. 5 équipes pour le président de la République.
Et surtout, la supercherie, c'est que les équipes qu'on a allouées aux candidats d'opposition, c'est des activistes pro-parti au pouvoir sur les réseaux sociaux. C'est eux qu'on a envoyés de couvrir les activités de cela. C'est une supercherie honteuse. Sauf que pour moi, c'est un non-événement, parce que tous les politiciens au Cameroun savent que c'est comme ça que ça se passe. Et déjà, depuis que les médias sociaux sont arrivés, depuis l'avènement de Facebook, pratiquement, ces médias ont supplanté les médias traditionnels et les Camerounais regardent très peu la télévision nationale.
Oui, en tout cas, la campagne électorale, à vous entendre, se déroule également sur les réseaux sociaux. Sachez que lundi, on parlera dans cette émission de cette campagne électorale qui commence donc officiellement demain. Ce sera Chantal Leroux qui sera à ce micro et si vous êtes au Cameroun et un peu partout sur le continent africain et que vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez vous inscrire dès maintenant en nous appelant au standard 33 9 693 693 70. Franck, bonne journée et bon week-end à Yaoundé. Il est 10h51 ici à Paris. On parlait, tiens, des réseaux sociaux. Eh bien, les utilisateurs des réseaux sociaux bénins sont vent debout. Ils sont en colère. Ils sont en colère puisque, eh oui, aujourd'hui, si vous allez sur Facebook, Twitter, WhatsApp et d'autres réseaux sociaux, eh bien, on vous taxe davantage. Vous devez payer encore un peu plus cher. Bonjour Armand.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors c'est un gros coup de massue que vous avez reçu sur la tête, avez-vous dit au standard, hein, je reprends vos propos, mercredi.
Oui, je l'avoue, c'était un gros coup de massue. Pour le simple exemple que je peux vous donner pour vous démontrer ça, c'est que par le passé, vous pouvez faire un forfait internet de 3 gigas à 5000 francs pour 30 jours. Aujourd'hui, pour les 5000 francs, on vous donne 600 mégaoctets pour 30 jours. Vous voyez la différence?
Oui.
Et dire, justifier ça par le fait que les réseaux sociaux sont utilisés beaucoup plus à des fins ludiques, ça, c'est encore plus énervant. Oui. Moi, dans mon métier, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux parce que j'ai des demandes. J'ai mon ordinateur dans ma voiture. À tout moment, je me connecte avec le Wi-Fi de mon téléphone pour travailler. Les PME vont en souffrir.
Oui, c'est-à-dire que vous, aujourd'hui, pour dire clairement les choses, Armand, dans le cadre de votre travail, j'imagine que si vous avez un coup de fil à passer, vous allez passer via Viber ou WhatsApp ou Messenger plutôt que de passer par les deux ou trois compagnies de téléphone classiques.
Non, pas vraiment. Parce que ce qu'on essaie de nous dire, c'est que le forfait internet qui a augmenté. Le forfait appel aussi a augmenté, je vous assure.
Ouais. Et donc tout ça, quel est l'objectif, la finalité? C'est de remplir les caisses de l'État, Armand?
Mais je voudrais bien comprendre qu'on veuille remplir les caisses de l'État, mais pas de cette façon, pas de la façon la plus brutale. Mmh. Et surtout, nous faisons croire que c'est pour éviter que les gens utilisent les réseaux sociaux à des fins ludiques. Mais non, attendez, on ne va pas traîner derrière alors qu'aujourd'hui, c'est ça qui marche. Et c'est impensable. Ce gouvernement nous a promis l'Internet à haut débit, à peu de frais.
Oui. Et là, visiblement, quand on vous écoute, forfait Internet 5000 francs CFA, vous aviez droit donc à quoi avant? À 3?
À 30? 3 gigas.
3 gigas et 3 aujourd'hui, gigas. Vous n'avez plus le droit qu'à 600.
600 mégaoctets. Vous voyez la différence?
Je vois la différence, elle est conséquente.
Énorme.
Armand, merci, je vous interromps. Il y a d'autres auditeurs qui souhaitent nous interpeller sur d'autres sujets. En tout cas, cette augmentation ne laisse pas indifférente. Julie Owono, qui est la directrice de l'ONG Internet sans frontières, elle juge extrêmement grave l'augmentation des tarifs de connexion. On reparle de la machine à voter en République démocratique du Congo. Bonjour Félicien.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
La commission électorale annonce l'arrivée de ces fameuses machines controversées dans les prochains jours. Félicien, vous êtes comme une partie de la société civile et comme la majorité de l'opposition, vous êtes convaincu que ces machines vont permettre au gouvernement de tricher lors de la présidentielle du mois de décembre.
Tout à fait, monsieur Juan, tout à fait. Les machines là, c'est vraiment une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que si vous regardez l'indice de développement humain, vous comprendrez que la population congolaise est à 80% analphabète. Alors, vous allez avec une machine devant un analphabète qui n'a jamais vu cette machine. Il va faire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un viendra lui dire pointe ici, pointe là-bas.
Et en même temps, excusez-moi, alors peut-être parce que j'ai l'habitude évidemment des écrans, mais c'est assez ludique. Vous arrivez devant un écran, vous voyez apparaître les photos des candidats, bah vous appuyez sur la photo du candidat pour qui vous avez envie de voter. Finalement, c'est relativement facile.
Non, monsieur Wan, pour que cette photo-là apparaisse, il faut toucher quelque part. Alors, si on vous dit touchez ici, touchez là-bas, Vous faites comme un robot, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, on vous indique. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des gens déjà préparés pour faire tricher ou faire élire quelqu'un que l'on ne veut pas voter. Donc les N analphabètes, quand ils sont devant une machine, c'est vraiment comme si ils ne faisaient rien. Mmh. Donc ils ne peuvent pas, on ne peut pas aller dans une élection avec 80% de la population analphabète devant une machine qu'ils n'ont jamais vue, dont même ils n'ont jamais entendu parler. Alors, il va voter comment ?
Effectivement, c'est un argument qui revient souvent, hein, Félicien, on a eu l'occasion d'en parler hier, en débat avec beaucoup d'auditeurs, et c'est vrai que vous êtes nombreux à vous inquiéter, notamment, effectivement, pour les personnes qui, analphabètes, qui ne savent pas lire et écrire, et d'autres, on a eu le témoignage d'un auditeur disant, voilà, moi je n'ai jamais utilisé un ordinateur, et le fait de me retrouver devant cette machine, bah, me fait un peu paniquer, il a un peu d'appréhension. On aura l'occasion d'en reparler, en tout cas, dans les prochains jours, et les prochaines semaines, c'est promis, puisque c'est un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. Allez, on va terminer avec un sujet bien plus léger, quoique pour les supporters du Paris Saint-Germain, ils ont bien vu que leur club préféré a raté sa rentrée en Ligue des Champions en s'inclinant 3-2 face à Liverpool. C'était mardi soir, vous avez pu suivre en direct la rencontre sur les antennes de RFI. Bonjour Laïfamo.
Oui, bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes assez agacé hein, par le sélectionneur du PSG.
Oui, Juan, vous savez, l'équipe du Paris Saint-Germain aujourd'hui a toutes les potentialités, mais il manque un entraîneur de haut niveau pour que le Paris Saint-Germain fasse grande chose en Ligue des Champions.
Mm-hmm. Qu'est-ce qui manque exactement alors ?
Il manque un problème de coaching, Juan Gomez. Lorsqu'on voit la rencontre entre le Paris et Liverpool en file, on a vu que le Paris était dominé dans tous les compartiments du jeu. Donc, le milieu, le Paris avait complètement perdu le milieu. Mais lorsque vous perdez le milieu, il y a deux conséquences, Juan Gomez. La première conséquence, c'est que l'attaque ne reçoit pas assez de ballons. La défense aussi, tout le poids du match se repose sur la défense. Mmh. Mais on a vu que le coach du Paris Saint-Germain était là comme s'il regardait le match à la télé. C'est ça, c'est ce qu'on n'a pas apprécié. Lorsque le Paris a réussi l'égalisation quelque part, on a vu directement l'autre côté, le Jurgen Klopp qui a fait sortir Mohamed Salah, qui n'a pas été aussi réaliste, mais il a fait rentrer Firmino. Firmino, dès qu'il est rentré seulement, je crois... Oui.
Donc il y a un vrai problème de coach, on ne va pas refaire le match, faute de temps malheureusement, il y a un vrai problème de coach, et je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il manque un milieu de terrain d'envergure charismatique, technique au Paris Saint-Germain. Peut-être que le PSG a tout simplement très mal géré son mercato d'été. Patrick, vous êtes à Libreville, bonjour.
Bonjour Juan.
Et vous aussi, vous avez regardé Liverpool-PSG?
Oui, j'ai bien regardé le match. Je crois que le point du Paris Saint-Germain, contrairement à ce que disait notre interlocuteur tout à l'heure, ce n'est pas l'entraîneur. C'est au niveau du mercato, parce que de mon point de vue, il fallait faire partie de Thiago Silva et faire jouer Marquinhos et Kimpembe à la centrale et prendre tout simplement une sentinelle. Bon, je crois qu'il n'y a pas encore le feu, hein, c'est le premier match de la Champions League.
Oui.
Et puis le nouvel entraîneur n'a pas encore... on peut pas encore le juger pour le moment.
Bien sûr, il y a un nouveau système de jeu, nouvel entraîneur, mais en même temps c'est la quatrième défaite consécutive du PSG en Ligue des Champions. La première pour cette saison, mais enfin ça fait 4 de suite tout de même.
Oui, mais écoutez, ce n'est que son premier match en Champions League. Donnons-lui un peu plus de temps, nous verrons le deuxième ou le troisième match. À partir de là, on pourra se faire une idée sur son coaching.
Bien. Voilà. Bah écoutez, on se donne rendez-vous au match retour alors.
Oui, il y a sans problème. Merci.
Merci Patrick. Laï, on se donne rendez-vous au match retour.
Merci beaucoup Juan Gomez.
Qu'avez-vous dit, pardon ?
Et merci beaucoup, Juan Gomez.
Merci à vous, surtout. Bon week-end à tous les deux. Merci à tous de votre fidélité. Lundi, c'est donc Chantal Leroux qui sera à ce micro. Vous parlerez du Cameroun et de l'élection présidentielle du 7 octobre. La campagne démarre donc demain. Le président sortant brigue un septième mandat face à lui. Huit candidats. L'opposition qui n'a pas réussi finalement à trouver un candidat unique. Alors, que vous inspire cette affiche de l'élection présidentielle ? Et vous parlerez également des répercussions, des conséquences de la crise dans les régions anglophones.